Chapitre 6. Aussitôt rentré dans la ville qu'il habitait, Nekhludov se rendit à la prison pour annoncer à la Maslova que son pourvoi avait été rejeté et qu'elle avait à se préparer au départ pour la Sibérie. Il avait dans sa poche le recours en grâce qu'il s'apprêtait à lui faire signer. Mais il ne comptait guère sur cette grâce. Et même, chose étrange à dire, il avait cessé de la désirer. Sa pensée s'était déjà accoutumée à l'idée du départ pour la Sibérie, de la vie parmi les forçats et les déportés, et il avait peine à se représenter ce qu'il ferait de lui-même et de la Maslova si le recours en grâce se trouvait adopté. Il se rappelait une phrase de l'auteur américain Thoreau, disant que dans son pays, où régnait l'esclavage, le seul endroit convenant à l'honnête homme était la prison. Tout ce qu'il avait vu à Pétersbourg était bien fait pour lui remettre cette phrase en mémoire. Le gardien de l'infirmerie, l'ayant aussitôt reconnu, vint au-devant de lui et déclara que la Maslova ne se trouvait plus là. Et où est-elle? De nouveau dans la section des femmes. Mais pourquoi l'y a-t-on ramenée? Bah, vous savez, Excellence, c'est une espèce comme ça, répondit le gardien avec un sourire méprisant. Elle a fait des siennes avec un infirmier. Alors le médecin-chef l'a mise à la porte. Jamais Nekhludov n'aurait cru que la Maslova, et ses propres sentiments pour elle, lui tinssent ceci à cœur. Mais le fait est que les paroles du gardien furent pour lui comme un coup de massue. Il éprouva un sentiment pareil à celui qu'on éprouve en recevant la nouvelle d'un grand malheur survenu à l'improviste. Une cruelle souffrance l'envahit, qui lui ôta d'abord toute réflexion. Lorsque peu à peu il reprit conscience, il s'aperçut que ce qui dominait en lui était la honte. Il rougit de ce qu'avait eu de ridicule sa joie à la pensée d'un soi-disant changement dans l'âme de la Maslova. Toutes les belles paroles qu'elle lui avait dites pour repousser son sacrifice, ses reproches, ses larmes, tout cela n'avait donc été qu'une comédie, jouée par une misérable créature pour l'abuser et se faire valoir près de lui. Il avait maintenant l'impression que, déjà dans son dernier entretien avec elle, il avait aperçu en elle le signe de cette perversité dont désormais il ne pouvait plus douter. Et toutes ses pensées et tous ses souvenirs se pressaient en lui pendant qu'il s'éloignait de l'infirmerie. « Mais que dois-je faire maintenant ?» se demandait-il. « Suis-je encore lié à elle ? Ou bien plutôt sa conduite ne m'a-t-elle pas délivré de tout lien ?» Mais à peine s'était-il posé cette question qu'il comprit qu'en abandonnant de nouveau la Maslova, ce n'était pas elle, c'était lui-même qu'il punirait. Et cette idée l'épouvanta. Non, ce qui est arrivé, loin de pouvoir modifier ma résolution, ne peut avoir d'effet que de la renforcer. Cette femme, en agissant de la sorte, s'est conformée au caractère que lui ont donné les circonstances de sa vie. Qu'elle ait fait des siennes avec un infirmier, c'est affaire à elle. Mais mon affaire à moi est d'accomplir ce qu'exige de moi ma conscience. Et ma conscience exige que je sacrifie ma liberté pour racheter mon péché. Quoi qu'il arrive, je me marierai avec elle et je la suivrai partout où elle ira. » Il se répétait cela avec une obstination mêlée de malveillance, tout en marchant à grands pas le long des corridors. Parvenu à la porte de la grande salle, il pria le gardien de faction de dire au directeur qu'il désirait voir la Maslova. Le gardien, qui plusieurs fois déjà lui avait parlé, lui fit part en réponse d'une grande nouvelle. Le capitaine avait été mis à la retraite et venait d'être remplacé par un autre directeur, infiniment plus sévère. « Ah, la vie va devenir bien plus dure maintenant, » ajouta le gardien, et il courut prévenir le nouveau directeur. Celui-ci ne tarda pas à rejoindre Nekhludov. C'était un homme grand et maigre, avec un visage maussade aux pommettes saillantes. « On ne peut pas voir les détenus en dehors des heures de visite réglementaire, » dit-il à Nekhludov sans le regarder. « C'est que je voudrais faire signer un recours en grâce. Vous n'avez qu'à me le remettre. J'ai absolument besoin de voir un instant la détenue Maslova. On me l'a laissé toujours voir jusqu'ici. Bien des choses qui se sont faites jusqu'ici ne se feront plus, » en levant brusquement les yeux sur Nekhludov. « Mais j'ai une autorisation du gouverneur, » insista Nekhludov, tirant son portefeuille. « Permettez, » dit alors le directeur, il prit la feuille dans ses longues mains osseuses et la lut lentement. « Veuillez passer au bureau, » fit-il. Le bureau était vide. Le directeur s'assit devant une table et se mit à feuilleter des papiers qui s'y trouvaient. Évidemment, il se proposait d'assister à l'entretien. Nekhludov, lui ayant demandé s'il pourrait voir aussi une détenue politique, la Bogoduchovska, le directeur répondit d'un ton bref que c'était impossible. « Les visites aux détenus politiques sont interdites, » déclara-t-il. Et de nouveau il se plongea dans la lecture de ses papiers. Nekhludov, qui avait dans sa poche une lettre pour la Bogoduchovska, se sentit dans la situation d'un suspect, pouvant être fouillé et retenu en prison. Lorsque la Maslova entra dans le bureau, le directeur releva la tête, et sans regarder Nekhludov, ni elle, se borna à dire « Vous pouvez causer », après quoi il se replongea dans ses papiers. La Maslova était vêtue de son ancien costume de prison, avec sa veste blanche et son fichu sur la tête. En apercevant l'expression froide et hostile du visage de Nekhludov, elle rougit, et, saisissant un pli de sa veste, elle baissa les yeux. Son attitude confirma pour Nekhludov le récit du gardien. Il voulait, de tout cœur, la traiter de la même façon que les fois précédentes. Mais quand il essaya de lui tendre la main, la chose lui fut impossible, tant il avait désormais d'aversion pour elle. « Je vous apporte une mauvaise nouvelle, » lui dit-il d'une voix calme, mais sans la regarder ni lui tendre la main. « Votre pourvoi est rejeté. » « Je le savais d'avance, » répondit-elle tout bas. En toute autre circonstance, Nekhludov lui aurait demandé pourquoi elle disait cela. Mais cette fois, il se borna à la regarder, et il vit que ses yeux étaient pleins de larmes. Et, loin de l'attendrir, cette vue ne fit que l'irriter contre elle. Le directeur se leva, se mit à marcher de long en large. Nekhludov, malgré son irritation, crut devoir exprimer à la Maslova le regret que lui inspirait le rejet du pourvoi. « Ne vous désespérez pas, » dit-il. « On peut encore compter sur le recours en grâce, et... »« Oh, ce n'est pas cela qui... » répondit-elle en fixant sur lui plaintivement ses yeux mouillés de larmes. « Et qu'est-ce donc ?»« Vous êtes allé à l'infirmerie, et on vous a dit... »« Bah, cela ne regarde que vous, » répliqua Nekhludov d'un ton sec, en fronçant les sourcils. La mention qu'elle venait de faire de l'infirmerie avait réveillé en lui le misérable sentiment de son orgueil offensé. « Moi, un homme du monde, avec qui la jeune fille la plus aristocratique aurait été heureuse de se marier, je me suis offert à épouser cette créature, et elle, ne pouvant attendre, s'est amusée à faire des siennes avec un infirmier. » Il se disait cela, et il la regardait avec des yeux méchants. « Tenez, il faut que vous signiez ici, » fit-il, en posant sur la table une grande feuille de papier qu'il venait de tirer de son portefeuille. La Maslova essuya ses larmes avec le bout de son fichu et, s'asseyant près de la table, lui demanda où elle devait signer. Il lui indiqua l'endroit. Pendant qu'elle écrivait, il se tint debout devant elle, considérant son dos penché sur la table et que secouaient par instants des sanglots contenus. Et dans son âme recommença la lutte des bons et des mauvais sentiments, de son orgueil offensé et de sa pitié pour elle, qu'il voyait souffrir. Et ce dernier sentiment finit par l'emporter. Songea-t-il d'abord à la plaindre, ou bien se rappela-t-il d'abord ses propres fautes, et notamment des fautes du genre de celles qu'il reprochait à la malheureuse? Le fait est que, à la fois, il se sentit coupable, et il la plaignit. Elle, cependant, ayant achevé d'écrire, et après avoir frotté sur sa jupe ses doigts tachés d'encre, elle se leva et le regarda. « Quoi qu'il vous arrive, et quoi que vous fassiez, rien ne changera ma résolution, » lui dit Nekhludov. La pensée qu'il lui pardonnait renforçait encore en lui sa pitié pour elle, et il éprouvait un impérieux besoin de la consoler. « Ce que j'ai dit, je le ferai. Où qu'on vous envoie, j'irai avec vous. « Inutile, » l'interrompit-elle, et elle rougit de nouveau. « Et pensez bien à ce dont vous aurez besoin pour la route. Je n'ai besoin de rien, merci. » Le directeur s'approcha d'eux. Nekhludov, sans attendre son observation, prit congé de la Maslova et sortit, éprouvant un sentiment que jamais encore il n'avait éprouvé, un sentiment de calme profond et de profond amour pour l'humanité. « Je le vois désormais, se disait-il fièrement, rien de ce que fera la Maslova ne pourra changer mon attachement pour elle. Qu'elle fasse des siennes avec les infirmiers, cela est son affaire. La mienne est de l'aimer, et non pas pour moi-même, mais pour elle et pour Dieu. » Or, voici comment, en réalité, la Maslova avait fait des siennes avec l'infirmier. Un jour que l'infirmière l'avait envoyé chercher du thé pectoral à la pharmacie, située à l'extrémité d'un corridor, elle avait rencontré là l'infirmier Oustinov, un homme de haute taille, au visage bourgeonné, et qui depuis longtemps la poursuivait de ses galanteries. Cet homme l'avait empoignée, elle s'était défendue, et elle s'était arrachée à lui d'une façon si vive qu'il était allé se cogner contre une étagère, brisant deux des bouteilles qui s'y trouvaient. Au même instant, le médecin-chef passait dans le corridor. Entendant le bruit du verre brisé et voyant la Maslova qui s'enfuyait, toute rouge et les cheveux en désordre. « Eh bien, la petite mère, si tu te mets à faire du tapage ici, j'aurai vite fait de te faire partir. »« De quoi s'agit-il ? » demanda-t-il à l'infirmier en la regardant sévèrement par-dessus ses lunettes. L'infirmier, avec un sourire plat, commença un long récit où il rejetait tous les torts sur la Maslova. Le médecin, d'ailleurs, ne le laissa pas achever. Et le soir même, sur sa demande, la Maslova fut renvoyée de l'infirmerie. Le fait de ce renvoi la chagrinait assez peu. Mais la raison alléguée pour la renvoyer l'agitait au contraire d'autant plus que désormais la pensée de tout contact charnel avec un homme lui faisait horreur. Rien au monde ne l'humiliait ni ne la désolait aussi fort que de se dire que, en raison de son passé, tout homme pouvait se croire en droit de la posséder. Et lorsqu'elle s'était approchée de Nekhludov, dans le bureau, elle avait eu le ferme dessein de se justifier devant lui de l'injuste accusation portée contre elle. Mais dès les premiers mots qu'elle lui avait dit, elle avait senti qu'il ne la croirait pas, que toutes les excuses ne serviraient qu'à confirmer ses soupçons. Et ses larmes lui étaient descendues dans la gorge, et elle s'était tue. La Maslova continuait à s'imaginer que, comme elle l'avait dit à Nekhludov lors de sa seconde visite, elle ne lui pardonnait pas et le haïssait. Mais en réalité, et dès cette seconde visite, elle s'était remise à l'aimer. Et elle l'aimait d'un tel amour que, inconsciemment, elle faisait tout ce qu'elle devinait qu'il désirait qu'elle fît. Elle avait cessé de boire, de fumer, de penser aux hommes. Et c'était encore pour plaire à Nekhludov qu'elle avait consenti à prendre du service à l'infirmerie. Tout ce qu'elle faisait, elle le faisait uniquement parce qu'elle devinait qu'il le désirait. Et si toutes les fois elle lui déclarait ne pas vouloir de son sacrifice, cela provenait d'abord de ce que, ayant été très fière de la façon dont elle avait repoussé son offre la première fois, elle trouvait un plaisir d'amour-propre à persévérer dans son attitude. Mais cela provenait aussi, cela provenait de plus en plus, de ce qu'elle sentait que son mariage avec Nekhludov serait pour celui-ci une source de souffrance. Et de toutes ses forces, elle se jurait qu'elle n'accepterait pas son sacrifice. Mais en même temps, le cœur lui saignait à la pensée qu'il la méprisait, qu'il la croyait destinée à rester toujours telle qu'elle avait été, et que jamais il ne se rendrait compte du changement qui s'était fait en elle. L'idée que Nekhludov la soupçonnait d'avoir eu des rapports avec l'infirmier la tourmentait infiniment davantage que la nouvelle du rejet de son pourvoi, ou que la perspective de son prochain départ pour la Sibérie. Chapitre 7. La Maslova pouvait être désignée pour faire partie du premier convoi, de telle sorte que Nekhludov n'avait pas de temps à perdre pour régler ses affaires avant son départ. Mais les affaires qu'il avait à régler étaient en si grand nombre qu'il sentait bien que, quelque temps qu'il lui restât encore pour s'en occuper, jamais il ne pourrait en finir avec elle. Sa situation, à ce point de vue, était tout autre que par le passé. Auparavant, en effet, il était en peine de trouver à s'occuper, et toutes ses occupations avaient toujours un seul et unique objet, qui était Dimitri Ivanovitch Nekhludov. Ce qui n'empêchait pas toutes ses occupations de lui paraître alors mortellement ennuyeuses. Maintenant, au contraire, ses occupations n'avaient plus pour objet lui-même, mais autrui, et cependant elles l'intéressaient et le passionnaient, et leur nombre était infini. Les affaires qu'il occupait en ce moment se divisait en quatre catégories. C'était lui-même, avec ses habitudes d'ordre un peu pédantesque, qui les avait ainsi divisés, et qui, en conséquence, avait classé dans 4 portefeuilles différents les papiers qui s'y rapportaient. La première catégorie comprenait toutes les affaires relatives à la Maslova. De ce côté, Nekhludov se voyait provisoirement dans l'impossibilité d'agir, tout étant subordonné à l'accueil que devait recevoir le recours en grâce. La seconde catégorie comprenait les diverses affaires relatives à la fortune de Nekhludov. Dans le village qui lui venait de ses tantes, et dans un autre village plus petit, Nekhludov avait fait don de ses terres aux paysans, n'exigeant d'eux en échange que le paiement d'une rente destinée à leurs propres besoins généraux. Mais, à Kouzminskoye, il avait laissé les choses dans l'état où elles étaient quand il en était parti. C'est-à-dire que la rente de la terre devait y être payée à lui-même. Restait seulement pour lui à fixer les termes du paiement de cette rente et à savoir quelle partie de la somme il devait garder pour lui et quelle partie il devait remettre aux paysans. Là encore, Nekhludov se voyait forcé d'attendre, ignorant à combien de frais allait l'entraîner son voyage en Sibérie, dont l'hypothèse lui semblait tous les jours plus probable. La troisième catégorie comprenait les secours aux prisonniers qui, sans cesse en plus grand nombre, s'adressaient à lui. Le nombre de ces malheureux était devenu si grand que Nekhludov avait une difficulté extrême à pouvoir s'occuper de chacun d'eux en particulier, sans compter que le peu de succès de ses premières démarches n'était pas pour l'encourager à les continuer. Et de plus en plus, il se trouvait amené à se préoccuper d'une question plus générale qui, dès son entrée dans la prison, avait commencé à frapper son esprit. Cette question était de savoir pourquoi et comment avait pu être créée l'étonnante institution qu'on appelait le tribunal criminel, et qui avait pour conséquence les prisons, les bagnes, les forteresses, le sacrifice de milliers d'êtres humains. De ses relations personnelles avec les prisonniers, des renseignements fournis par l'avocat et par l'aumônier de la prison, et aussi de statistiques judiciaires patiemment consultées, Nekhludov avait tiré la conclusion que l'ensemble des détenus appelés « criminels » pouvait se répartir en 5 espèces d'hommes. À la première espèce appartenaient des détenus tout à fait innocents, victimes d'erreurs judiciaires, tels le faux incendiaire Menchov, tels la Maslova et d'autres. Au dire de l'aumônier, le nombre de ces hommes était assez restreint, environ 7%. Mais leur situation était, en revanche, particulièrement digne d'intérêt. La seconde espèce comprenait des hommes condamnés pour des crimes qu'ils avaient commis dans des circonstances exceptionnelles, tels que la fureur, la jalousie, l'ivresse, etc., pour des crimes que les juges de ces hommes, très vraisemblablement, auraient commis comme eux dans les mêmes circonstances. Ces détenus-là étaient en proportion très nombreux, la moitié environ du total des détenus, d'après ce que Nekhludov avait pu calculer. Dans le troisième groupe se trouvaient des hommes condamnés pour avoir accompli des actes qui, à leurs yeux, n'avaient rien de coupable, mais qui passaient pour des crimes aux yeux des hommes chargés de rédiger et d'appliquer les lois. Tels des détenus accusés de vente prohibée d'eau-de-vie, de contrebande, de vol d'herbe ou de bois dans les propriétés privées ou publiques, etc. La quatrième classe de criminels comprenait tous ceux qui avaient été condamnés simplement parce qu'ils étaient d'une valeur morale supérieure à la moyenne de la société, tels les membres de diverses sectes religieuses, tels aussi les Polonais, les Tcherkesses, condamnés pour avoir défendu leur indépendance, tels les détenus politiques condamnés pour insubordination à l'autorité. Enfin, la cinquième espèce d'hommes était faite de malheureux à l'égard desquels la société était infiniment plus coupable qu'ils n'étaient eux-mêmes coupables à l'égard de la société. C'étaient des hommes que la société avait abandonnés, qu'avait abruti une incessante oppression, des hommes du genre du jeune garçon au balai et de 100 autres misérables que les conditions de leur vie avaient conduits, pour ainsi dire, systématiquement à commettre l'acte considéré comme criminel. Il y avait dans la prison beaucoup de voleurs et de meurtriers qui appartenaient à cette catégorie. Nekhludov rattachait aussi à la même catégorie ces hommes foncièrement et naturellement pervertis qu'une nouvelle école nomme les criminels nés, et dont l'existence constitue le plus fort argument de ceux qui soutiennent la nécessité des codes et des châtiments. Ces représentants du soi-disant type criminel, étaient eux aussi, pour Nekhludov, des malheureux envers qui la société avait plus de tort qu'il n'en avait envers elle. Mais au lieu d'être coupable envers eux seuls, la société l'avait été aussi envers leurs parents et leurs grands-parents, ce qui rendait sa responsabilité envers eux encore plus lourde. Nekhludov eut, par exemple, l'occasion de connaître dans la prison un voleur récidiviste nommé Otchotin, fils naturel d'une prostituée, élevé dans les asiles de jour et de nuit, et n'ayant certainement jamais rencontré, jusqu'à 30 ans, aucun homme doué de sentiments moraux, cet Otchotin avait fini par s'affilier à une bande de voleurs, et le vol était devenu son unique métier. Mais il avait, avec cela, une sorte de génie comique qui lui attirait la sympathie de tous ceux qui le rencontraient. Tout en demandant des secours à Nekhludov, il ne pouvait s'empêcher de railler et lui-même et ses compagnons et les juges et toutes les lois humaines et divines. Un autre détenu, un certain Fedorov, avait tué et enfoui en terre un vieillard pour lui voler quelques roubles. Celui-là était un paysan dont le père, contre toute justice, avait été ruiné par un riche voisin. Lui-même, d'une nature ardente et passionnée, toujours avide de jouissance, pas une seule fois dans sa vie, il n'avait vu des hommes s'occupant d'autre chose que de jouir. Et pas une fois il n'avait entendu dire qu'il y eût pour l'homme un autre objet au monde que le plaisir. Ces deux détenus frappèrent vivement Nekhludov. Il eut l'impression que l'un et l'autre auraient pu être utilisés pour le bien, et que leur criminalité provenait simplement de ce que la société avait toujours refusé de s'occuper d'eux. Et si cela, avec tous leurs vices, lui était sympathique, plusieurs autres, parmi les détenus, le dégoûtaient par leur abrutissement ou par leur cruauté. Mais dans cela non plus, il ne parvenait pas à reconnaître le fameux « type criminel » dont parlait l'école italienne. Il ne voyait en eux que des êtres qui lui étaient personnellement antipathiques, pareils en cela à bien d'autres personnes qu'il avait eu l'occasion de rencontrer non pas dans les prisons, mais dans les salons, en habit, en grand uniforme ou en robe de dentelle. Telles étaient les différentes espèces d'hommes dont l'ensemble constituait la masse des criminels. Et la quatrième des affaires qui préoccupait Nekhludov était d'arriver à savoir pourquoi tous ces hommes étaient mis en prison et torturés en toute manière, tandis que d'autres hommes, semblables à eux, et même très inférieurs à quelques-uns d'entre eux, étaient laissés en liberté et chargés de les juger et de les condamner. Nekhludov avait eu d'abord l'espoir de trouver une réponse à ces questions dans les livres, et il s'était empressé d'acheter tous les ouvrages qui traitaient du sujet. Avec la plus grande attention, il avait lu les écrits de Lombroso, de Garofalo, de Ferri, de Mosley, de Tardi et de leurs confrères en criminologie. Mais cette lecture n'avait été pour lui qu'une source d'amère déception. La même chose lui était arrivée, qui arrive d'ordinaire à tout homme se mettant à étudier une science, non pas afin de jouer un rôle parmi les savants, non pas afin de pouvoir écrire, discuter, enseigner, mais afin de trouver une réponse à certaines questions simples, pratiques et vitales. La science qu'il s'était mis à étudier répondait à 1000 questions diverses extrêmement subtiles et savantes, mais à la question qu'il occupait, elle ne donnait point de réponse. Cette question était cependant la plus simple de toutes. Il se demandait comment et de quel droit quelques hommes enfermaient, torturaient, déportaient, battaient, tuaient d'autres hommes, alors qu'ils étaient eux-mêmes pareils à ces hommes qu'ils torturaient, battaient et tuaient. Mais au lieu de répondre à cette question, les savants dont ils consultaient les ouvrages se demandaient les uns si la volonté humaine est libre ou non, d'autres si un homme peut être déclaré criminel simplement sur le vu de la forme de son crâne, d'autres si l'instinct de l'imitation ne joue pas un grand rôle dans la criminalité. Et les savants se demandaient encore ce que c'était que la moralité, ce que c'était que la dégénérescence, ce que c'était que le tempérament, ce que c'était la société, etc. Et ils étudiaient aussi l'influence exercée sur la criminalité par le climat, par l'alimentation, par l'ignorance, par l'hypnotisme, par la passion, etc. Tous ces ouvrages rappelaient à Nekhludov la réponse que lui avait faite autrefois un petit garçon qui revenait de l'école. Nekhludov lui avait demandé s'il savait épeler. « Parfaitement, avait répondu l'enfant. Eh bien, épelle-moi le mot museau. Mais quel museau? Un museau de chien ou un museau de bœuf? S'était écrié le petit garçon d'un air entendu. C'était de la même façon que les auteurs consultés par Nekhludov répondaient à l'unique question qui le préoccupait. Il continuait à les lire, mais en désespérant de plus en plus d'y trouver profit. Il n'attribuait cependant encore cette absence de réponse qu'au caractère superficiel de la science criminologique, et il s'interdisait jusque-là d'admettre pleinement pour son compte une réponse plus radicale, qui toutefois, dans les derniers temps, s'offrait à son esprit avec plus en plus d'évidence.